France Inter.
Aujourd'hui, bactéries miroirs, la nouvelle menace mondiale racontée par...
David Bicard, microbiologiste et directeur du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur.
Et Hervé Schneves, neurobiologiste et président du comité d'éthique de l'INSERM.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Au départ, c'était une réussite scientifique, une prouesse qui tenait du miracle et qui avait commencé dans un centre de recherche sécurisé enfoui sous les cimes des Rocheuses canadiennes. Une équipe de biologistes avait réussi ce que l'on pensait impossible, assembler un ribosome miroir, cette machine cellulaire qui fabrique les protéines, pour être capable de lire un message génétique aussi inversé qu'une image dans un miroir et à l'opposé de celle qu'utilise la vie, telle que nous la connaissons. Ils appelèrent cette cellule d'un autre monde, Argo 1. Mais la procédure d'inactivation échoua. L'un des chercheurs, en nettoyant une queue, fissura sa combinaison. Une piqûre d'aiguille invisible, aucun symptôme n'apparut pendant 72 heures, puis une fièvre étrange arriva. Résistante à tous les traitements, les tests ne révélaient rien. L'agent infectieux ne réagissait à aucun réactif. Le patient mourut sans qu'on puisse poser un diagnostic. Puis d'autres tombèrent malades, tous victimes d'une infection que personne ne pouvait nommer. Les autorités sanitaires crurent d'abord à un nouveau virus, mais il n'y avait pas d'ADN ni d'ARN connus, rien à séquencer, rien à cibler, les défenses immunitaires semblaient aveugles. Argo 1 proliférait lentement dans les eaux usées, contaminant les sols, les insectes, les rongeurs, puis les oiseaux, les poissons, les animaux domestiques. Aucun antibiotique ne fonctionnait. Les molécules classiques glissaient sur elles comme la pluie sur une vitre. En 6 mois, plusieurs écosystèmes locaux étaient effondrés. Dans certaines régions d'Amérique du Nord, les populations d'insectes pollinisateurs avaient chuté de 90%. Les oiseaux tombaient du ciel. Le bétail mourait dans les champs. Les forêts devenaient silencieuses. La panique gagna les gouvernements, mais c'était trop tard. Les bactéries miroirs avaient muté. La surface du globe devint une scène d'affrontement entre deux règnes biologiques, l'un vieux de 4 milliards d'années, l'autre vieux de 20 mois seulement. Et chose inimaginable, c'est le second qui prenait l'avantage sur les habitants de la Terre, qui n'étaient que des ombres pour lui, invisibles, incompatibles, inutiles. Si ce récit apocalyptique reste une fiction, l'alerte à destination de la communauté scientifique est bel et bien lancée. Et c'est cette histoire de bactéries miroirs que nous allons vous raconter.
Imaginez que je sois une bactérie tout à fait classique. Et que mon reflet dans le miroir, lui, il soit capable d'éradiquer la vie sur Terre. Sans que vous puissiez rien faire.
Extrait d'une vidéo du Monde en mars dernier, David Bicard, Hervé Schneves, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les 12 et 13 juin prochains, l'Institut Pasteur va accueillir une conférence internationale sur les risques potentiellement inédits de ce qu'on appelle la vie miroir. Cette conférence fait écho à un article publié en décembre dernier dans la revue Science, signé par 38 chercheurs du monde entier, avertissant que les bactéries miroirs, si elles étaient créées, pourraient poser des risques inédits pour l'ensemble du vivant sur Terre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la vie miroir? Parce que évidemment, nous sommes très nombreux à n'en avoir jamais entendu parler. Qui commence? David Bicard?
Avec plaisir. Alors la vie miroir, c'est l'idée que les molécules sont fondamentalement asymétriques, les molécules qui composent le vivant, et qu'on peut prendre leur image dans le miroir, et que cette image aurait des propriétés parfaitement identiques, mais la vie a fait le choix d'être uniquement d'un seul côté du miroir.
Donc asymétrique en l'occurrence.
Voilà, c'est une asymétrie. En fait, on peut revenir aux origines de cette découverte qui vient de Louis Pasteur. Il faut imaginer un jeune Louis Pasteur de 25 ans dans un laboratoire de l'ENS qui avait eu pour charge d'étudier le tartrate, qui est un résidu de la production du vin. Et il y avait eu une énigme qui avait été soulevée par les chimistes de l'époque qui s'était rendu compte que le tartrate déviait la lumière polarisée. Mais un tartrate qu'on synthétisait par un processus chimique, lui, ne le déviait pas. Et Louis Pasteur a eu la perspicacité de comprendre que c'était lié à la présence de deux molécules miroirs lorsqu'on faisait la synthèse chimique, alors que la vie, elle, ne produisait que un seul côté du miroir. Et donc c'était toute la réalisation qu'en fait la vie existe d'un seul côté de cette dissymétrie moléculaire.
Pourquoi d'ailleurs, Hervé Genevès, il y a dissymétrie dans le monde vivant? Ça sert à quoi précisément? Il n'y a jamais de symétrie parfaite?
Il y a des choses neutres, il y a des symétries. Regardez nos deux mains.
Mais sont-elles vraiment symétriques?
On a l'image miroir. Ben, c'est exactement ça. Vous regardez votre main droite, votre main gauche, et vous avez la chiralité, c'est-à-dire l'image en miroir l'une de l'autre. Alors, pourquoi est-ce que la vie a fait le choix que les protéines tournent à gauche et que les sucres tournent à droite? C'est une des questions que se posent les chercheurs qui justement travaillent sur ces molécules, et c'est une des raisons d'essayer de reconstruire, parce que vous savez, la recherche c'est toujours la même chose, on commence par pourquoi, et puis on n'est pas capable de répondre à pourquoi, alors on essaye de répondre à comment.
Mais vous dites ça tourne à droite ou ça tourne à gauche, ça veut dire quoi exactement, tourner à droite ou à gauche?
Eh ben, imaginez c'est simple d'imaginer la double hélice, la fameuse double hélice d'ADN. La double hélice d'ADN, elle est formée de sucre qui s'appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et il y a quatre formes de ce sucre. Eh bien, chaque sucre, comme une perle, va s'enchaîner avec l'autre pour faire cette spirale qu'on voit tourner. Mmh. Et cette spirale tourne toujours à droite. Et tous les sucres tournent à droite, pour des raisons chimiques. Alors que pour les protéines, au contraire, elles tournent à gauche. Donc les protéines, elles sont faites d'autres perles, 20 acides aminés qui peuvent s'enchaîner les unes aux autres. Et ça fait des boucles, ou ça fait des spirales, qui, elles, tournent dans le sens gauche.
Donc les protéines sont de gauche et les sucres sont de droite.
Voilà.
C'est ce qu'on peut dire.
en termes de chiralité, oui.
Est-ce que les biomolécules sont toujours asymétriques dans le même sens, David Bicard?
Alors, en effet, aux origines de la vie, en fait, vraisemblablement dans la soupe primordiale où le vivant émergeait, devait y avoir les deux côté du miroir qui existait, qui était présent. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, et qui est justement un sujet d'étude, la vie ne s'est faite que d'un seul côté du miroir. À partir du moment où toutes les molécules organiques produites étaient d'un côté du miroir, en fait, il y a vraisemblablement un avantage à être capable d'utiliser ce côté du miroir. Et donc, la vie est restée de ce côté-là, et l'essentiel, quasiment toutes les molécules du vivant, tous les ADN sont du côté droit, et tous les acides aminés, qui sont les protéines, sont du côté gauche.
Et donc, la biologie miroir qui nous intéresse aujourd'hui, ce serait justement imaginer une biologie parfaitement symétrique, c'est ça, qui n'existe pas dans la nature?
C'est ça, ça serait vraiment mettre une bactérie devant un miroir et puis regarder son image de l'autre côté et puis la faire venir de notre côté du miroir en quelque sorte.
Et alors cette histoire justement, on a commencé à se poser la question à partir de quand, de Louis Pasteur? C'est vraiment ça le point de départ?
Oui, c'est vraiment lui qui a pour le premier réalisé qu'il y avait cette dissymétrie moléculaire. On peut avoir des molécules qui ont exactement la même composition, qui peuvent avoir les mêmes propriétés chimiques, mais qui pourtant ne sont pas les mêmes parce qu'elles ne sont pas superposables avec leur image dans un miroir. Et c'est lui qui a réalisé que la vigne, le vin, le raisin ne produisait que un côté du miroir pour ce tartrate, et qui a réalisé que lorsqu'on faisait pousser un micro-organisme en lui faisant manger ce tartrate, et ben il utilisait aussi que un seul variant de ce tartrate et pas l'autre. Et donc la vie existe vraiment d'un côté du miroir.
Hervé Genevès, ce sujet aujourd'hui de la biologie miroir, il est étudié par des équipes dans le monde entier, ou est-ce que ça reste une niche un peu confidentielle?
Alors, dans le monde entier, oui, mais pas par beaucoup d'équipes, parce que c'est les spécialistes comme David Bicard de la biologie de synthèse qui s'y intéressent, et qui s'y intéressent au niveau des molécules. La bactérie, c'est d'une complexité colossale.
La protéine, c'est plus simple finalement.
Des protéines miroirs, on sait en faire, des sucres miroirs, on sait en faire, des assemblages complexes, on commence à savoir en faire, et c'est justement parce que la communauté scientifique anticipe, réfléchit, qu'est-ce qui pourrait se passer dans 10, dans 20 ans, que le travail a été fait. En fait, le travail dont on parle aujourd'hui, c'est la réflexion de plus d'une cinquantaine, même probablement d'une centaine de chercheurs de différents domaines, la chimie, la biologie, y compris des philosophes, qui se sont posés trois questions. Ils se sont posés la question 1. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'un jour, on pourrait faire une bactérie miroir ? Parce qu'entre faire une protéine et faire une bactérie...
Il y a un gap, alors, apparemment.
Bah, ouais. C'est comme si vous disiez, des patins à roulettes, je vais être capable de faire une voiture. Mm-hmm. Il y a une toute petite différence. Deuxième question, si on était capable de le faire, est-ce que cette bactérie miroir, hors des conditions de laboratoire, elle pourrait survivre ? Mm-hmm. Parce que cette bactérie miroir, elle serait obligée de manger, de s'alimenter avec des nutriments miroirs, qui n'existent pas dans la nature. Donc, est-ce qu'elle serait capable de survivre ? Et puis, troisièmement, si on était capable de la faire, si elle était capable de survivre, est-ce qu'on serait capable de prendre des contre-mesures pour éviter l'apocalypse, comme vous avez dit ? Et le résultat des études, au bout de 2 ans, ça a été de répondre 3 fois oui. Enfin, 2 fois oui et 1 fois non.
Oui,
oui on serait capable de la construire dans 10 ans, mm-hmm. mais...
Ben c'est demain.
Un jour. Oui, elle serait capable de survivre, parce qu'il y a des molécules neutres, en particulier le glycérol, qui permettraient de fournir des nutriments. Et 3, est-ce qu'on serait capable de faire des contre-mesures ? Ben, la réponse, c'est non. Parce que dans l'état actuel des choses, elle est, comme dit dans votre récit au début, elle échapperait à toutes les formes aujourd'hui de reconnaissance. Pourquoi ? Ben, parce que, imaginez que quelqu'un de facétieux prenne vos clés et en fasse une copie miroir. Et vous rentrez chez vous avec ces clés qui ressemblent à vos clés,
ouais.
d'habitine. Mais vous, essayez,
pas dans la
vous essayez d'ouvrir la serrure.
Et ça ne fonctionne pas.
Eh bien, elle ne s'ouvre plus. Et ça serait la même chose avec les reconnaissances immunitaires. Mm-hmm. Enfin, nos défenses qui sont censées reconnaître des molécules, ben celle-là, elle leur échapperait.
David Bicard, donc, on crée déjà en laboratoire des protéines et des sucres miroirs, c'est ça ?
Oui, ça on
pourquoi
on sait
ça sert à quoi ?
Alors, il y a plusieurs intérêts. Un d'entre eux est l'étude des origines de la vie, comprendre pourquoi est-ce qu'on est d'un côté du miroir et pas de l'autre. Mm-hmm. Il y a un intérêt thérapeutique, c'est-à-dire que un des gros intérêts de ces molécules miroirs, notamment de peptides miroirs, c'est qu'ils peuvent avoir des propriétés pharmacologiques très intéressantes. Ils peuvent être actifs dans le traitement de certaines maladies, mais en même temps, ils sont beaucoup plus stables parce qu'ils ne peuvent pas être reconnus, notamment par les enzymes de notre corps qui, normalement, dégradent les peptides.
Mais ça, c'est déjà une réalité en thérapeutique ou pas ?
C'est déjà une réalité. Il y a un médicament, je crois, qui a déjà été approuvé pour le traitement de maladies rénales, mm-hmm. Le nom m'échappe. Qui existent. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement, notamment par une entreprise de biotech allemande, TME Pharma.
D'accord, donc on n'est pas à l'état de penser, on est déjà dans le concret là.
Alors là, il faut voir qu'on parle vraiment de toutes petites molécules, d'assemblage de quelques acides aminés. Alors, après, là, il y a eu quand même des percées récentes dans le domaine où des chercheurs ont réussi à assembler des protéines quand même plus complexes, et y compris ce qu'on appelle des polymérases, ces enzymes qui sont capables, en gros, d'assembler l'ARN, d'assembler l'ADN.
Ouais. Alors, ce qui fait peur aux scientifiques, on va en parler dans un instant, c'est justement la mise au point possible, potentielle, de bactéries miroirs. Donc, Hervé Chevès nous le disait, avec vraiment un degré de complexité beaucoup plus important. Ce collectif de scientifiques a sonné l'alarme dans Science au mois de décembre. Vous organisez un symposium la semaine prochaine à Pasteur sur ce sujet. On en parle avec vous dans un instant et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Après l'infiniment lointain, l'homme a découvert avec l'infiniment petit la microchirurgie. Dans cette microforge, où même les Lilliputiens eussent été des géants, le verre s'effile en forme de scalpel. Un scalpel d'un diamètre de 1 millième de millimètre que le microscope révèle au côté ou derrière le chat d'une aiguille. Étrange merveille, on opère les microbes. La fine aiguille de verre incise le globule infecté. Étrange merveille.
Extrait des actualités françaises en 1946, l'opération des microbes à l'aide de micro-instruments. David Bicard, j'imagine que les choses ont bien changé depuis et que vos instruments ont évolué. Vous êtes microbiologiste, Hervé Chevès, neurobiologiste, président du comité d'éthique de l'INSERM. On parle avec vous du risque autour de ces bactéries miroirs, méconnues évidemment du grand public. Risque qui fera l'objet donc d'un symposium à l'Institut Pasteur les 12 et 13 juin prochains. Ce qui inquiète avec ces bactéries miroirs, qui ne sont donc toujours pas créées, il faut quand même le préciser, David Bicard. D'ailleurs, on parlait d'une dizaine d'années. Vous n'êtes pas aussi optimiste que Hervé Chevès ?
Non.
Elles ne sont pas créées, et moi je pense personnellement qu'elles ne le seront jamais.
Ah, jamais, carrément?
Oui.
Ouais. Mais alors ça sert à quoi de vous réunir, hein, si effectivement il n'y a pas de risque?
Ben, c'est notamment de faire en sorte qu'elles ne le soient pas. Donc, pour être clair, actuellement on est complètement incapable de le faire, c'est inimaginable de le faire. Mm-hmm. Moi je pense que dans 10 ans ça restera inimaginable. La question c'est comment pouvons-nous faire en sorte que dans 20 ans, dans 30 ans, ça reste inimaginable. Est-ce qu'à un moment donné, avec les progrès technologiques qu'il va y avoir dans les décennies qui arrivent, il ne faudra pas quand même réfléchir à mettre des barrières technologiques réglementaires pour faire en sorte que peut-être dans 30 ans, ça ne soit pas possible pour un chercheur isolé de faire ça sur un coin de paillasse?
Ouais, on verra ça dans les questions éthiques évidemment que ça pose. Ce qui inquiète réellement les scientifiques, imaginons que ces bactéries miroirs existent, Hervé Schneves, c'est quoi? C'est vraiment l'aspect... qui échappe totalement aux défenses immunitaires à la fois des humains, des animaux, des végétaux?
Ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le principe de précaution tel qu'il doit être mis en action. Face à un risque potentiellement grave et potentiellement irréversible, prendre les mesures qui conviennent, à commencer par faire de la recherche, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que c'est possible de le faire, et voir comment on encadre cette recherche, et éventuellement, ce qui sera aussi l'objet d'un des ateliers de Pasteur, faire de la recherche sur les contre-mesures potentielles, c'est-à-dire ne pas attendre que le risque émerge, mm-hmm. pour se dire, si ça arrivait, si un État voyou se mettait à décider de construire une chose pareille...
Mais dans quel intérêt, puisque ça détruirait tout sur son passage? C'est-à-dire, personne n'y échapperait, donc c'est un peu crétin, oui, quand même, non?
Oui, mais c'est la même chose pour les armes bactériologiques, c'est la même chose pour la guerre chimique. On l'interdit, il y a des conventions internationales, mais il y a quand même, on sait qu'il y a des armées qui en font des réserves dans des arsenaux. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un dictateur ou d'un régime totalitaire un peu fou. On n'est jamais à l'abri d'un milliardaire qui veut s'offrir une nouvelle forme de vie et pour qui 1, 2, 3 milliards ne représentent rien. Mmh. Et la question fondamentale, c'est celle de l'autorégulation des scientifiques. C'est-à-dire que, conscient du problème, conscient des intérêts de travailler sur la biologie de synthèse et les molécules miroirs, il faut mettre des lignes rouges et dire, voilà, il y a des choses qu'il est intéressant de faire, et puis il y a une ligne au-delà de laquelle, non seulement on trouve ça inintéressant, mais dangereux.
Donc c'est toute la capacité des scientifiques eux-mêmes à s'auto-réguler sur des questions comme ça de science, on en parlera avec vous. Ces chercheurs-là qui se sont réunis donc dans Science en décembre dernier, ils s'appuyaient sur quoi en fait pour tirer la sonnette d'alarme, David Licard?
Je pense que c'est vraiment... purement une expérience imaginaire. C'est-à-dire, on réfléchit,
c'est
une expérience
quoi,
de pensée. C'est vraiment de la prospective. On a conscience des principes physiques qui font que c'est possible. Il y a eu des progrès où on a réussi à faire des protéines miroirs, des molécules un peu plus complexes miroirs, qui font que on se dit, voilà, peut-être dans 10, 20, 30, 50 ans, quelqu'un, si on faisait un investissement massif, pourrait le faire. Et à ce moment-là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et donc, il y a eu là un vrai travail scientifique de fond qui a été fait pour faire cette évaluation de risque potentiel. Je pense que les chercheurs qui se sont mis à imaginer ces scénarios l'ont fait de manière assez naïve, en se disant il y aura forcément quelque chose qui fera que ça ne sera pas possible ou ça ne va pas survivre. Et puis, en y réfléchissant, ils se sont rendus compte qu'ils ne trouvaient pas, à l'heure actuelle, de contre-arguments solides qui leur ferait dire que non, ça serait pas dangereux. Et l'idée, là, c'est d'ouvrir le débat et que ce débat ne se passe pas derrière des portes closes, mais que le public en
ce
soit
sera ouvert au public via la vidéo, en fait, hein, c'est ça.
Il faut s'inscrire, mais on peut assister en streaming.
On en reparlera. Est-ce qu'il y a quand même dans le monde, Hervé Schneves, des scientifiques qui sont ouvertement intéressés par ces bactéries miroirs et qui aimeraient bien quand même aller plus loin dans leur concrétisation?
Alors, dans l'état actuel des choses... ils ne s'expriment pas. Si ces scientifiques existent, on ne les entend pas. Mais c'est l'intérêt d'ouvrir le dialogue et d'ouvrir la discussion. Il y a le colloque de Pasteur, il y aura un colloque plus technique à Manchester au mois de septembre. Donc, on verra s'ils existent. Mmh. Nous, au comité d'éthique de l'INSERM, on a fait une recherche sur les équipes en France et on n'a trouvé personne, effectivement, intéressé par un tel travail. Maintenant, il faut voir qu'à partir... On a l'expérience déjà de choses comme ça. À partir du moment où quelque chose est possible, même si c'est retardé, il faut en évaluer les risques. Il y a un fameux précédent qui est le colloque d'Asile Omar en 1975, quand les quelques centaines, à l'époque ils étaient peut-être 100 maximum, biologistes moléculaires de l'époque, se sont réunis en Californie pour dire voilà, maintenant on est capable de recombiner l'ADN, on est capable de commencer l'ingénierie de l'ADN avec des nouvelles enzymes, quels sont les dangers potentiels ? Et cette centaine de biologistes moléculaires se sont arrêtés de travailler pendant un an. On réfléchit aux risques, on fait cette expérience de pensée dont parlait David tout à l'heure pour les bactéries miroirs. Et au bout d'un an, ils sont revenus en disant « Bon, eh ben, y a des choses qui sont sans risque, et puis il y a des choses qui sont un peu plus risquées, puis un peu plus risquées, puis un peu plus risquées. » Et ça a donné tous les laboratoires, la classification de sécurité, P1, P2, P3, vous avez entendu parler du P4, en a un seul en France.
Laboratoire de haute sécurité à Lyon, oui.
De haute sécurité, où on étudie les bactéries du style Ebola, les bactéries qui donnent ou certains virus qui donnent des fièvres hémorragiques et des choses extrêmement graves. Voilà, on a cette expérience d'une autorégulation qui est devenue ensuite une réglementation. Et là, l'idée, c'est que dans un domaine qui est potentiellement intéressant comme la biologie de synthèse sur des molécules miroirs, elles ne soient pas, les bénéfices potentiels ne soient pas gâchés par des recherches qui excéderaient une certaine limite.
David Bicard, justement, est-ce qu'il y a d'autres exemples où la communauté scientifique a su faire preuve de sagesse ? Parce qu'on pense au clonage, par exemple, dans les années 80, 90, on a beaucoup entendu parler de la brebis Dolly, par exemple. Est-ce qu'à la suite de ça, il y a vraiment eu une autorégulation ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que dans des laboratoires privés, on ne se soit pas gêné d'avancer ?
C'est une bonne question. Non, je ne suis pas tout à fait le spécialiste du côté de ce qui se passe d'un point de vue réglementaire. Ce que je peux dire, c'est que moi, je vois cette démarche actuelle sur la vie mémoire comme extrêmement positive, parce qu'on voit qu'on en est très loin, et pourtant, on commence déjà à en parler et à y faire attention. Mmh. Je pense qu'il y a des exemples où ça s'est moins bien passé, et on peut parler de CRISPR-Cas et des bébés CRISPR, par exemple, ou peut-être...
Alors, les bébés CRISPR, faut peut-être nous le resituer, s'il vous plaît.
Alors, c'était ce chercheur chinois qui a pensé que ça serait une bonne idée de faire une modification génétique sur des embryons, et qui a donné naissance à deux petites filles modifiées génétiquement grâce aux outils, ces ciseaux moléculaires CRISPR-Cas, alors qu'à l'époque, toute la communauté était d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée.
Parce qu'elles étaient séropositifs, c'est ça ?
Alors non, leur père était séropositif et le but était d'éviter qu'elle soit infectée. Mais il n'y avait pas de réelle raison médicale à le faire, parce qu'il y avait plein d'autres manières d'éviter ça.
Ouais.
Mais voilà, un chercheur isolé a pu le faire. Et donc il y a peut-être eu une prise de conscience trop tardive qu'il y avait des verrous à mettre.
Dans un article de Science Critique en février dernier, il y a un historien et un journaliste qui s'appelle Nicolas Chevassiot-Louis qui semble se montrer quelque peu dubitatif par rapport justement à la démarche d'alerte des scientifiques, eux-mêmes impliqués en fait. On aimerait croire, écrit-il, à une soudaine conversion des technobiologistes à davantage de prudence. Hélas, ni leurs arguments, ni leurs états de service ne nous y engagent. L'initiative est d'autant plus étonnante, écrit-il, qu'elle provient de scientifiques ne nous ayant en rien habitués à la défiance à l'égard des biotechnologies. David Bicard, je vais quand même vous poser d'abord la question. Vous qui êtes cofondateur d'une start-up en biotechnologie, qu'est-ce que vous lui répondez ? Parce qu'il dit que ce serait finalement un miroir aux alouettes, cette affaire de nous alerter sur les dangers de ces bactéries miroirs.
Alors, je pense qu'il y a un côté qui est juste, dans le sens où on en est encore tellement loin, il y a encore tellement d'inconnus, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette discussion maintenant, c'est justement pour que les scientifiques s'unissent pour y réfléchir. Je pense que c'est encore tout à fait possible que si jamais une bactérie miroir existe, en fait, elle ne survivrait pas du tout dans notre environnement. Après tout, il y a peut-être quand même une raison pour laquelle la vie n'existe que d'un côté du miroir. Dans la soupe primordiale initiale, les vies qui se seraient constituées de l'autre côté du miroir ont complètement disparu. Donc c'est peut-être qu'en fait, elles ne pourraient pas rentrer en compétition. Et après, je pense qu'il faut aussi faire la distinction donc, entre la recherche sur ces questions de molécules miroirs et sur ce qu'on peut appeler les biotechnologies, la biologie de synthèse en général, qui en fait, repose en grande partie sous les mêmes technologies sous-jacentes, mais il y a un intérêt réel et très concret à poursuivre les recherches en biotechnologie, en biologie de synthèse.
Bah justement, c'est ce qu'il dit le journaliste dans sa critique. Il dit, bah, finalement, c'est une façon d'agiter le chiffon rouge et puis de faire appel à des financements pour dire, bah, regardez, nous, chercheurs, on a besoin d'argent pour chercher encore sur quelque chose qui, en plus, vous nous dites, n'aura pas forcément lieu là, bientôt, tout de suite. Hervé Schneves.
C'est toujours la question de séparer le bon grain de l'ivraie. Je crois que les scientifiques qui ont été aux avant-postes ont toujours été les premiers à mettre en garde, surtout après ce qui s'est passé avec la bombe atomique. À partir de l'appel de Stockholm, il y a une conscience. Si vous regardez qui a créé le CCNE, pour prendre l'exemple du Comité national d'éthique, ce sont les scientifiques qui ont mis au point les premières greffes, ce sont les scientifiques qui ont mis au point les premières techniques génétiques. On a parlé de CRISPR-Cas, John Kuei fait son expérience en 2018, mais on a commencé à alerter et à faire des colloques en 2014. Donc, on ne peut pas nous reprocher, en étant aux avant-postes et en voyant ce qui va se passer, de lancer la discussion, puis ensuite, ben, il y a une communauté civile, ensuite il y a des politiques, ensuite il y a des réglementations. Peut-être que les médias peuvent aussi, comme vous le faites très bien aujourd'hui, s'intéresser tout de suite à la question avant que ça devienne catastrophique.
Allez, on y revient dans un instant. Les bactéries miroirs au cœur de ce dossier de la Terre au carré, et vous nous rejoignez aussi avec vos questions si vous en avez sur ce sujet méconnu.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
En cas de danger potentiel de contamination microbienne, le sujet incriminé ne sera pas réadmis pour des raisons de sécurité publique.
Veuillez déposer vos prélèvements sanguins dans le réceptacle prévu à cet effet. Aucune exception ne sera faite, ainsi qu'il est prévu dans les alinéas 6 et 12 des sections 33A et 96A du chapitre 6 du Code d'état d'urgence permanent.
James Cole, fin de quarantaine.
Extrait de l'Armée des 12 singes, Thierry Guillen en 1995, David Bicard, microbiologiste, Hervé Schneves, président du comité d'éthique de l'INSERM avec nous pour parler du risque des bactéries miroirs. On le disait, il faut le rappeler, David Bicard, pour l'instant ça n'existe pas. Il faudrait beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour arriver à mettre au point ces bactéries, mais ça fait un super sujet de scénario pour le
cinéma. Ça, on est d'accord, hein. C'est de la super science-fiction.
On a tous les ingrédients, là, franchement. Hein.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a d'autres, d'ailleurs, d'autres organismes qui pourraient faire l'objet de mêmes inquiétudes? Parce que ça, ces bactéries ont été mises en lumière, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en ait d'autres, David Bicard?
Alors, il y a une
est-ce
question
qu'en la matière, si... finalement, c'est totalement illimité?
Ouais, pourquoi la vie est comme elle est? Pourquoi on a de l'ADN? Pourquoi on a des protéines qui sont faites d'acides aminés? Et au final, par simple symétrie, on sait que l'autre côté du miroir est possible, mais en fait, il y a d'autres variants qui sont potentiellement aussi possibles. On peut faire des sucres extrêmement proches que le ribose dans l'acide désoxyribonucléique,
ouais.
On sait qu'ils peuvent aussi s'assembler en hélice, enregistrer de l'information, donc il y aurait d'autres vies possibles.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous cache, Hervé Schneves? Mon complotiste.
Non, parce que ce qui fait la vie d'un scientifique, c'est de publier ses travaux. Donc, on ne nous cache rien. Là-dessus, la science, elle est ouverte. C'est bien parce qu'on est en pleine transparence qu'on peut même anticiper des risques potentiels.
Donc, un scientifique qui serait très, très, très bien doté et qui aurait beaucoup, beaucoup d'argent, est-ce qu'il a un intérêt à publier?
On est dans un scénario James Bond ou Mission Impossible.
Pourquoi pas, non?
Donc, mais c'est bien pour ça qu'on veut alerter là-dessus. Maintenant, voilà, il y a d'autres exemples. On a beaucoup discuté sur le clonage humain. Ça n'a jamais eu lieu parce que ça n'a aucun intérêt. Vous vous souvenez probablement qu'à un moment, on a parlé des hybrides.
On clone des animaux aujourd'hui.
Oui, on clone des animaux.
Hein, on peut cloner son petit chien. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Donc ça existe.
Il y a 10 espèces qui sont clonées, des chevaux de course, des choses comme ça. Mais,
donc,
mais
ça
pas
existe,
des êtres,
hein.
ça
pas
existe,
des êtres humains.
Mais pas des êtres humains. Parce que ça n'a aucun intérêt. On a parlé à un moment des hybrides, des cellules qui seraient hybridées entre humains et animaux. Bon, ça n'existe pas, parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, il y a des choses aussi qui tombe aux oubliettes, parce que ça n'a pas d'intérêt.
Bah, vous dites que ça n'a pas d'intérêt, mais cloner un humain, pardon, mais si vous perdez votre conjoint ou votre conjointe, vous pourriez tout à fait ravi d'avoir son clone, non ?
Bah non.
Pour vous, peut-être, mais...
Parce que le temps que cet humain apparaisse, soit enfant, puis se développe, ça serait jamais votre conjoint.
Il y aurait une échelle temporelle qui ne serait pas la bonne. Alors, on ne peut pas nous la livrer.
Et puis le génome, c'est pas la copie conforme l'un de l'autre. Regardez deux jumeaux, ils sont différents quand ils arrivent à l'âge adulte. Et puis regardez dans une ruche les abeilles, elles ont toutes le même génome, et pourtant la reine, elle fait 5 fois la taille d'une ouvrière et elle vit 10 fois plus longtemps.
David Bicard, vous êtes le co-organisateur de ce symposium international, hein, donc la semaine prochaine à Pasteur, les 12 et 13 juin. Dans quelles conditions d'ailleurs vous avez eu envie de mettre vraiment le sujet sur la table, de l'ouvrir même au public? C'est à la suite de la parution dans Science, là, de l'alerte des scientifiques?
C'est ça, il y a donc ce groupe de scientifiques américains, mais aussi plus largement internationaux, qui ont commencé à réfléchir sur le sujet, qui se sont dit que fallait organiser une conférence pour réunir la communauté autour de ce sujet. Yasmine Belkaïd, la présidente de l'Institut Pasteur, faisait partie des signataires du groupe de réflexion initial et a proposé, pour des raisons historiques, d'organiser ça à l'Institut Pasteur, étant donné que c'est Louis Pasteur lui-même qui a découvert la chiralité des molécules. Donc il y a le geste historique et moi j'étais ravi de m'impliquer là-dedans et d'aider à cette organisation.
Donc il y avait tout un contexte favorisant la réflexion à ce sujet, et donc ce sera le 12 juin pour le public, il faut s'inscrire en ligne en ce moment, et le 13 pour une réunion là réservée aux scientifiques. C'est ça, sûr. Vous avez discuté de quoi alors exactement? Qu'est-ce que vous allez vous raconter?
Alors, le but, c'est justement de tenter d'apporter des éléments de réponse, ou en tout cas des pistes expérimentales, afin de répondre à toutes les inconnues qui existent actuellement autour de ce sujet. Savoir déjà réellement est-ce que c'est faisable ou pas. Peut-être qu'il y a encore des barrières assez fondamentales auxquelles on n'a pas pensé, qui feront que, ça ne sera pas possible, ou en tout cas pas possible dans un avenir même à moyen terme. Ça va être de réfléchir à des contre-mesures possible, ça va être de réfléchir aux bénéfices et aux risques, et de faire la balance de ces recherches.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et pour vous, Hervé Schneves, Françoise nous demande, que peut un comité d'éthique sur une question comme ça, alors, pour poser des garde-fous ?
Alors, à la fois beaucoup et pas grand-chose. Je commence par le pas grand-chose. On est à un comité, c'est-à-dire on émet un avis, et comme c'est toujours dit, c'est un avis consultatif. Mais une fois qu'on a pris la parole, une fois qu'on a exposé la question, elle devient un sujet public avec la tension. Quels sont les éléments qui sont en tension? Donc un élément d'information, d'éveil. Et ensuite, il y a des propositions qui sont faites, des recommandations. Et de ces recommandations, en général, elles sont suivies par la gouvernance.
Esther nous dit, semble-t-il envisageable, de la même façon que nous avons développé des antibiotiques contre les bactéries déjà décrites, de développer de nouvelles gammes de thérapeutiques avec des antibiotiques miroirs, par exemple, David Bicard?
Donc c'est tout à fait possible, et là où la réflexion est très juste, c'est que les antibiotiques actuels ne marcheraient pas pour la très grande majorité contre des bactéries miroirs, mais il suffit en fait de mettre les antibiotiques de l'autre côté du miroir pour qu'ils fonctionnent.
Donc c'est très simple comme ça,
c'est
en théorie.
Tout à fait possible, c'est pas très compliqué, mais ce ne serait absolument pas une solution.
Pourquoi ?
Parce que les bactéries évoluent, elles sont capables de développer des résistances, et donc on pourrait peut-être temporairement guérir quelqu'un qui serait victime d'une infection d'une bactérie miroir, mais on sait à quel point les bactéries sont capables de résister aux antibiotiques.
Deux questions pour terminer sur les prions. C'est Nathalie qui demande s'il y a un lien avec les prions de la maladie de la vache folle et les protéines miroirs. Et Laure, pourquoi se focaliser seulement sur les bactéries, quid des virus et des prions, qui sont, me semble-t-il, dit Laure, plus simples à mettre au point?
Alors là où la question est intéressante, c'est que la maladie est liée à une anomalie de conformation de la protéine. C'est-à-dire qu'il y a une protéine prion normale, et puis la protéine prion malade, elle a une conformation anormale qui fait qu'elle s'agrège. Les protéines se collent les unes aux autres. Mais justement, si on faisait un prion miroir, lui à cause de cette conformation inverse, il n'arriverait pas à s'agréger avec les autres. Hein. Si l'exemple de l'agrégation d'une protéine, c'est quand vous faites bouillir votre œuf et ça devient un œuf dur, l'albumine, le blanc, c'est la coagulation des protéines. Bon, donc, au contraire, le prion miroir pourrait être un remède à la maladie du prion ou à d'autres maladies par agrégat, Alzheimer, Parkinson. Et pour les virus, là, ça ne pourrait pas marcher parce que le virus tourne à gauche et pour se répliquer dans la cellule, il a besoin d'avoir toute une machinerie qui reconnaît, il tourne à droite puisque c'est du sucre, pardon, et il a toute une machinerie qui le reconnaît et qui lui permet de s'exprimer. Donc un virus miroir, lui, n'arriverait pas à infecter une cellule.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, David Bicard, Hervé Schneves. Donc je renvoie sur ce symposium public sur les bactéries miroirs les 12 et 13 juin prochains, c'est donc la semaine prochaine à l'Institut Pasteur. Il faut s'inscrire pour le public, merci d'être venu nous en parler. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier. À bientôt.
Merci.